découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans.
La chronique nutraceutique, Angélique Houlbert sur Nutri Radio.
Bonjour Angélique.
Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
Ah, vous m'avez fait des petites infidélités la semaine dernière, la semaine d'avant.
Oui, c'est ça, oui.
Avec Ambeline qu'on embrasse, qui fait partie maintenant des animatrices hein, sur Nutri Radio. 10 ans après, l'équipe s'étoffe un peu. En tout cas, elle est bien Ambeline, elle est vraiment bien.
Oui. Ah oui, très bien, on a fait 2 émissions sur le cadmium, oh, vraiment.
Je les ai écoutées, ouais. Je peux dire que bon, maintenant je suis encore un peu plus stressé qu'avant, mais bon. Merci beaucoup Angélique. On vous remercie aussi, chers auditeurs, d'être présents toutes les semaines. Vous êtes nombreux, j'ai plein de choses à vous dire, mais c'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Merci à notre partenaire, Vital Plus, laboratoire français de compléments alimentaires depuis... Depuis 100 ans, j'ai envie de vous dire. Non, depuis très très longtemps, voilà, ils sont à Sarges-lès-Le-Mans, en France, ils produisent, ils fabriquent, ils distribuent, et vous les trouvez un peu partout, et on est content d'avoir des partenaires engagés comme cela, donc on les embrasse. Si vous voulez nous soutenir aussi, rendez-vous sur www.nutritv.fr. Vous nous soutenez, parce que c'est vrai que Nutri Radio, on va pas se mentir, vous en profitez gratuitement, hein, quand même, et c'est tant mieux. Et si vous voulez aller plus loin, quand même, sur www.nutritv.fr, eh bien, ça nous fera plaisir, et ça vous permettra aussi de découvrir des masterclass, des reportages, des documentaires, vraiment dans la continuité de ce qui se passe sur Nutri Radio. C'est pas les mêmes contenus, hein, c'est différent. Donc allez-y. Et bah, par exemple, il y a une masterclass sur la ménopause d'Angélique Houlbert, par exemple, entre autres.
Par exemple.
Oh, y a. Et aussi des masterclass qui peuvent d'ailleurs vous permettre de recevoir un petit certificat d'acquisition de connaissances, un petit quiz, etc. Bon, bref. Allez, on est parti, on attache nos ceintures. Vous le savez, Angélique Houlbert, c'est la classe qui démarre. Donc là, ouais, on est attentif, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler d'un système assez peu connu qui mérite pourtant toute notre attention. Et je dois dire que vous m'avez un peu compliqué la tâche, parce qu'il faut bien avouer que c'est imprononçable, en tout cas comme ça, rapidement. Alors je vous laisse le faire. C'est vrai que j'ai des problèmes avec mon orthophoniste depuis longtemps.
Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir le dire quand même, Fabrice. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler du système endocannabinoïde. Donc, faut s'entraîner hein, quand même pour le dire.
Quand vous dites, ça a l'air simple. Quand vous dites, ça a l'air simple, mais voilà, c'est pas facile.
Ouais, non, c'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est un système de communication lipidique hein, qui est assez complexe, hein, comme son nom. Et pourtant, comme vous l'avez dit, effectivement, en introduction, qui joue un rôle super important. Alors, dans le maintien de différents équilibres du corps, nous on appelle ça l'homéostasie, hein, donc vous allez voir à quoi il sert ce système, parce qu'il est impliqué dans beaucoup de processus physiologiques, notamment la douleur, notamment l'humeur, le sommeil, l'appétit, la fonction immunitaire, voilà, et quand ces différents équilibres sont un peu perturbés, ben, en fait c'est ce système endocannabinoïde qui va s'activer pour restaurer ces déséquilibres. Hein. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est en gros de quoi il est composé. Hein, parce qu'il est composé de plusieurs éléments. Donc premièrement, les endocannabinoïdes. Mais ces endocannabinoïdes, ils ont besoin de récepteurs. Les récepteurs, on va les appeler CB1 et CB2. Hein, ça va être un peu plus facile. Et il y a des enzymes aussi qui sont là pour les dégrader. Hein, donc on va essayer de planter le décor sur ce système endocannabinoïde pour que tout le monde soit bien au clair sur ce petit système de communication lipidique.
Alors, si on avait passé masterclass sur NutriTV, j'ai envie de vous dire, on se rapprocherait là d'une masterclass. Donc, on va dire un petit cours magistral, une espèce d'apex, quelque chose d'un... Voilà, c'est spécifique, c'est signé Angélique Houlbert, donc accrochez vos ceintures. Encore une fois, ceux qui n'ont pas encore ouvert leur trousse et leur stylo, c'est pas bon. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les endocannabinoïdes?
Ah, super, bah, impeccable, vous l'avez super bien. Ouais.
Ah oui,
alors, les endocannabinoïdes, ce sont des, donc, comme je disais tout à l'heure, des composés qui sont lipidiques, qui sont produits par l'organisme, hein, naturellement. On appelle ça, nous aussi, dans notre jargon, un peu des ligands endogènes. Et parce que endogène, c'est parce que c'est produit par l'organisme. Et ils vont aller se fixer, comme je disais tout à l'heure, sur des petits récepteurs. CB1 et CB2. Alors, quand je vous dis que ce sont des composés lipidiques, en fait, ce sont des dérivés d'acides gras qui sont fabriqués à partir de précurseurs qui sont sur les membranes des cellules. Vous savez, nos membranes cellulaires, on dit toujours que ce sont des membranes phospholipidiques, hein, c'est du gras autour de nos cellules. Et notamment, il y a un acide gras qui s'appelle l'acide arachidonique. Ça, c'est un acide gras polyinsaturé, oméga 6. Hein, et donc, ils sont souvent... Donc, ces endocannabinoïdes sont des composés lipidiques qui sont produits à partir de, notamment de l'acide arachidonique présent dans les membranes cellulaires. Et en fait, il faut bien comprendre que ces endocannabinoïdes, ils sont produits en réponse à un stimulus, un stress endogène, donc vraiment interne, ou un stress exogène, genre un stress traumatique, manque d'oxygène, inflammation, douleur. Hein, donc, et contrairement à des neurotransmetteurs, vous savez, les neurotransmetteurs comme la dopamine, la mélatonine, la sérotonine, eux ils sont stockés hein, dans des vésicules, et ben pas nos endocannabinoïdes, eux ils sont pas stockés, ils sont produits à la demande, donc quand il y a vraiment un stimulus, et ils agissent très localement et ils sont aussi très très rapidement dégradés. Donc voilà un peu pour planter le décor.
Décor bien planté, je sais qu'il y a deux principaux endocannabinoïdes, c'est tellement fluide. Avec des noms en plus tout aussi imprononçables. Hein.
Oui, alors il y en a deux principaux, effectivement. On va essayer de les faire un peu plus simples parce que leur nom scientifique est vraiment très compliqué. Le N-arachidonoyl-éthanolamine, ça c'est le premier. Ah, vous entendez le arachide, hein, donc, qu'on va appeler, et d'ailleurs qu'on appelle plus facilement, anandamide, donc l'AEA. Et lui, il joue un rôle super important dans tous les processus cognitifs, mais surtout émotionnels. En fait, en sanskrit, vous savez, la langue ayurvédique, un peu Ananda, parce que je vous dis que ça s'appelle l'anandamide. Ananda, ça signifie la joie, le bonheur suprême. Hein, donc voilà, pour ça, on va l'appeler comme ça, ça va être plus simple. Et lui, il a une affinité pour le récepteur CB1, un petit peu plus faible pour CB2. Et bon, il peut aussi activer d'autres récepteurs, mais je vais pas forcément en parler, c'est pas l'idée, je vais vous perdre là. Et donc, ça, c'est le premier, l'anandamide, un peu joie, bonheur suprême. Retenez ça. Et le deuxième, pareil, avec un nom tout aussi imprononçable, le 2-arachidonoïl, vous entendez encore, donc 2-arachidonoïl glycérol, qu'on appelle nous plus communément 2-AG, c'est plus simple. Lui, il va se fixer sur CB1, sur CB2, de manière assez équilibrée, et mais plus que l'anandamide. Et lui, c'est lui qui est considéré quand même comme le véritable agoniste, on appelle ça. Il se fixe très très bien sur ses récepteurs CB. Et ses effets, lui, c'est plus marqué sur l'inflammation, sur les réponses immunitaires, alors que l'anandamide, c'était plus émotionnel.
Il ne faut pas confondre évidemment avec amandalire, hein. Ça n'a rien à voir. Et quand vous nous dites que je vais vous perdre, rassurez-vous, Angélique, vous nous avez déjà perdu.
Mais non.
Où est-ce qu'on les retrouve exactement, ces récepteurs CB1 et CB2 ?
Alors, les récepteurs CB1 et CB2 ce sont des récepteurs qui sont membranaires, donc au niveau des membranes. En fait, il faut les comparer à des serrures, hein, tout simplement, qui sont activées par ces deux endocannabinoïdes, enfin, les endocannabinoïdes dont les deux principaux que je viens vous citer, là. Ça, ce sont des clés, hein. Endocannabinoïdes égale clé et CB1, CB2 égale serrure récepteur. Hein. Ça, c'est... Voilà, normalement, ça, je ne devrais pas vous perdre avec ça. Le CB1, c'est majoritairement localisé dans le système nerveux central, notamment dans le cerveau et dans certaines régions du cerveau, l'hippocampe, hein, vous savez, le siège de la mémoire, puis d'autres régions dans le cerveau, certaines terminaisons au niveau périphérique aussi, notamment au niveau des adipocytes, notamment au niveau cardiovasculaire, au niveau des muscles. Et le CB2, on va le retrouver plutôt dans les cellules du système immunitaire et dans la rate. Donc ça, c'est pour ça qu'ils ne sont pas situés au même endroit, et ils n'ont pas forcément, quand on les active, quand on les ouvre, hein, ces serrures-là, ces récepteurs-là, ça n'a pas forcément la même action. Et donc CB2, c'est plutôt impliqué justement dans des effets un petit peu plus immunomodulateurs. et dans la gestion de l'inflammation et de la douleur, puisque le système immunitaire a vraiment une grosse relation avec l'inflammation et donc aussi la douleur.
On va marquer une pause, Angélique, si vous voulez bien. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. Et puis, il y a Vital Plus, une entreprise familiale française qui formule et fabrique ses compléments nutritionnels depuis 34 ans. Un savoir-faire unique pour des compléments alimentaires riches en nutriments et extraits de plantes. Des produits naturels et bio d'une qualité exceptionnelle pour une consommation en toute confiance. Vital Plus, votre bien-être mérite le meilleur. Disponible en pharmacie, magasin bio et diététique.
La chronique nutraceutique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio.
On parle du système endocannabinoïde aujourd'hui avec Angélique sur Nutri Radio et on a effectivement des... C'est Angélique, hein, on n'est pas là pour enfiler les perles. Donc c'est technique, c'est précis, c'est scientifique, c'est intéressant. Je vous invite évidemment à écouter cette émission en podcast très concentré parce que sur le live, voilà, vous avez l'intérêt qui est suscité, mais en podcast, vous allez voir, ça prend une autre saveur encore. On a déjà retenu que les récepteurs cannabinoïdes CB1 et CB2 sont des récepteurs, donc ce sont les clés. Et les endocannabinoïdes, eux...
Non, c'est l'inverse.
C'est des serrures,
c'est des récepteurs, c'est des serrures.
Vous voyez, c'est... Et le mec, il lit... Non, mais pour vous dire que je suis en train de lire un truc, je lis à l'envers. Donc, on a retenu, parce que j'ai pris les notes vite fait, là, pendant... Je dis, je vais dire ça, c'est bien, et Angélique, elle va me dire, c'est magnifique. Eh ben non, bam. Donc, les récepteurs CB1, CB2, les récepteurs cannabinoïdes, sont des serrures, et ceux qui les activent, eh bien, ce sont les endocannabinoïdes, qui représentent donc les clés.
C'est ça.
Ah là là, là. Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Ah, donc, on a vu que les endocannabinoïdes, les récepteurs, voilà, on a vu les récepteurs et les endocannabinoïdes. Maintenant, il nous reste à voir les enzymes, vous me l'avez dit, qui sont responsables de leur dégradation.
Eh bien, oui, parce que, en fait, vous allez comprendre au fur et à mesure que tout ça, voilà, c'est important. On a deux enzymes spécifiques qui sont, oui, responsables de l'inactivation de ces endocannabinoïdes. Avec des sigles un peu étonnants aussi, la FAAH, voilà. Donc, bon, c'est une hydrolase. AS, vous savez tout ce qui se finit en AS, c'est une enzyme. Et une enzyme, moi, c'est comme une petite paire de ciseaux, ça découpe, quoi. Donc, elle, c'est la principale enzyme qui va être responsable de l'inactivation de l'anandamide, donc du premier endocannabinoïde que je vous ai cité. Et puis, on a la MAGL. Ça fait un peu mutuel, je sais, mais bon, voilà, ça c'est une lipase qui va découper le deuxième, le 2AG. Et ça, c'est important, j'insiste quand même là-dessus, c'est important de connaître ça. Parce que, en fait, tout actif nutraceutique qui va pouvoir inhiber ces enzymes va être super intéressant pour augmenter ces taux d'endocannabinoïdes et prolonger les effets. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, ils ne se stockent pas. Donc en fait, il faut les inhiber, il faut empêcher qu'elles bossent ces fameuses deux petites, la FAAH et la MAGL. Quoi. Elles nous ennuient un peu et voilà. Voyez où je veux en venir maintenant.
Oui, enfin bon, c'est... c'est vite dit, mais complètement à la rue. Non, mais alors, FAH et MAGL, c'est vrai que ça fait... Choisissez votre mutuelle, mesdames, messieurs, mutuelle étudiante, la FAH et la MAGL. Bon, alors, je crois que pour les acteurs, on a à peu près fait le tour.
Oui.
Quels sont les rôles physiologiques, donc?
Ouais, vous allez voir. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est impliqué dans beaucoup de fonctions physiologiques, beaucoup d'équilibre. Notamment donc les fonctions cognitives, hein, je disais que ça jouait sur le cerveau. Les endocannabinoïdes, ils jouent un rôle important dans la neurotransmission, dans la transmission entre les neurones, la plasticité, vous savez, des neurones et des synapses. Voilà, si là-haut c'est bien plastique, si c'est bien fluide, bah ça fonctionne bien. Donc du coup dans l'apprentissage, dans la mémoire, et puis dans la régulation de certains neurotransmetteurs, le GABA qui vous calme, la dopamine bah, qui vous dope. Hein. C'est aussi des fonctions, enfin ça joue un rôle dans le contrôle des émotions, quoi. Donc ça permet d'atténuer l'anxiété, d'atténuer la dépression. Donc vous voyez, on a quand même, voilà, mais c'est très vaste. Hein.
Alors, vous m'avez dit hors antenne, quand vous me disiez que je comprenais rien à rien, que ce système jouait aussi un grand rôle dans la perception des douleurs.
Oui, bah voilà. Et là, on y vient aussi. Ça joue un rôle super important de ce qu'on appelle la nociception. Hein, voilà, cette espèce de perception des douleurs. On sait que ce système, il va permettre d'atténuer la perception des stimuli qui va générer une douleur aiguë, hein, ou des douleurs chroniques. Ce qui est super intéressant, quand il y a des douleurs, neuropathique, donc qui touche les nerfs. Hein, et ça contrôle aussi, il permet aussi de contrôler l'hyperactivité de certaines cellules immunitaires, ce qui permet de diminuer un peu la libération de certains messagers qui sont inflammatoires. Donc oui, là on commence à toucher du doigt à quoi il va servir et surtout à quoi il va être utile pour pouvoir un peu nous soulager, quoi. Et puis il faut aussi, il a une action sur l'appétit, sur la gestion du poids. Il y a une étude clinique en 2016 qui a montré que chez les personnes obèses, hein, quand elles consommaient des aliments pour le plaisir, hein, pas pour la faim, mais pour le plaisir, ça stimulait ce fameux système endocannabinoïde, notamment par l'augmentation d'anandamide. Donc en fait, les endocannabinoïdes pourraient renforcer un peu le plaisir alimentaire et jouer un rôle dans le surpoids, jouer un rôle dans l'alimentation compulsive. Donc on commence à les étudier aussi dans cet axe-là, ce qui est aussi super intéressant.
Bon, parce que là, on parle de quelque chose qui arrive, et vous m'avez dit tout à l'heure, vous voyez où je veux en venir, évidemment, et tout le monde y pense, donc on va aborder, on va mettre les deux pieds dans le plat. Si on consomme, alors là, il n'y a pas le Pollux, là, c'est pas Pollux qu'il faut, c'est pas Pollux qu'il faut faire appel, c'est la version un peu plus musclée, mais si on consomme du cannabis, est-ce que ça a une action, justement, sur ce système endocannabinoïde?
Oui, alors on est d'accord, Fabrice, vous n'avez pas le droit. Hein, ce n'est pas légal. Ou alors, il faut aller dans un endroit où c'est légal.
Mais... Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Angélique? Que vous connaissez?
Voilà,
revenez dans l'émission.
Ben voilà, non, mais effectivement, non, mais c'est bien de mettre les deux pieds dans le plat quand même, parce que c'est des questions que moi qui me sont posées quand je fais des formations.
Mais oui, surtout donc, là, on parle beaucoup du CBD, etc. Les gens sont
voilà,
un peu perdus.
Donc, mais non, alors la consommation de cannabis, on est bien d'accord, est illégale, mais effectivement, si vous allez dans un pays où c'est autorisé, on a le THC dans le cannabis, c'est c'est du delta 9 tétrahydrocannabinol. Ça, c'est un terpénoïde qui est contenu naturellement dans la plante cannabis sativa, qui va effectivement agir directement sur le récepteur CB1. Mais c'est un psychotrope, hein, on est bien d'accord, hein, et ça engendre aussi énormément d'effets secondaires, des altérations de la mémoire, de la coordination motrice. Enfin, voilà, c'est problématique.
Ah oui, et d'ailleurs, il y a une campagne de pub là, à destination des jeunes, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui dire tiens, on a fait ça, est-ce qu'on ne se prendrait pas ça? Et là, ils expliquent un peu tous les effets, ce que vous avez dit, effectivement, beaucoup d'anxiété, altération de la mémoire.
Donc, c'est ça, ouais.
Donc, bon, voilà. Est-ce qu'on peut, du coup, si on cherche à agir sur ce système endocannabinoïde, se tourner vers le CBD?
Oui, alors le CBD, c'est du cannabidiol. C'est effectivement un autre phytocannabinoïde qui est présent dans cette plante-là. C'est un psychoactif, ce qui veut dire que c'est pas un psychotrope. Hein. Donc, psychoactif, c'est actif au niveau psycho, mais c'est pas un psychotrope. Lui, il a une très faible affinité pour les récepteurs CB1, CB2, mais il augmente les taux d'anandamide au niveau de certaines synapses. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on lui attribue des effets analgésiques, des effets anxiolytiques. Donc, de toute façon, le système endocannabinoïde, c'est une cible hein, bien connue des phytocannabinoïdes, donc exogènes, qui sont dérivés du cannabis, hein, THC et CBD. Mais c'est vrai que pour de multiples raisons quand même, notamment le statut réglementaire, il y a de plus en plus de demandes pour des actifs, des nutraceutiques alternatifs, qui auraient des effets similaires à ces composés, avec un bon profil sécuritaire et avec une vraie autorisation. Voilà, voilà où je veux en venir aussi.
Bon, si vous nous dites ça, j'imagine que vous avez en tête des actifs intéressants, ou tout du moins qui émergent un peu de vos recherches. Là.
Ouais, c'est pour ça que je veux vous en parler, parce que c'est quand même assez nouveau, assez récent. Hein. Donc, il y a les actifs qui vont aller inhiber, donc les enzymes dont je vous parlais tout à l'heure, celles qui dégradent les endocannabinoïdes. Donc, parce que quand on va aller inhiber la FAAH et la MAGL, ça va permettre d'augmenter ces taux d'endocannabinoïdes qu'on fabrique, hein, et donc d'avoir les effets bénéfiques sans les effets psychotropes. C'est un peu ce qu'on recherche. Donc, il y a pour inhiber la FAAH, là, on va élever l'anandamide, quand on inhibe cette fameuse enzyme, on va élever le taux d'anandamide et donc moduler l'anxiété, moduler le stress. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en fait, oui, je vous en parle parce qu'il y a une étude clinique qui a été publiée en février 2025, qui a bien mis en évidence que quand on prenait 100 à 150 mg d'un extrait de graines de maniguette. La maniguette, son nom latin, c'est Afromum mellitata. Et en fait, elle est de la même famille que le gingembre. Gingembre, et donc on retrouve des extraits qui sont standardisés à 10% de vanillioïdes. dont du gingérol, par exemple, hein, du shogaol qu'on retrouve dans du gingembre. Et ça permet, d'ailleurs, entre guillemets, j'ai testé l'actif, et puis voilà, vous le mettez juste sur la langue, vous voyez bien que c'est comme du gingembre. Hein. Donc ça réduit en seulement 2 jours l'anxiété, ça réduit la tension qui est reliée au stress, ça améliore l'humeur, ça améliore la qualité du sommeil, et sans effet sédatif, ce qui est quand même assez intéressant. Et donc, selon les tests in vitro, bah voilà, justement, le principal mécanisme d'action, ce serait ça, l'inhibition de cette fameuse petite enzyme qui augmenterait les taux d'anandamide. Voilà pourquoi je vous en parle, parce qu'il y a une vraie étude clinique derrière.
Est-ce qu'il existe des actifs qui inhiberaient vous savez quoi, entre endonabide, inhibibide, medibide, radibide Est-ce qu'il existe des actifs qui inhiberaient le transime dont vous avez parlé, la MAGL?
Ouais, alors là, on n'est pas encore au stade des études cliniques publiées. Il n'y a pas sur PubMed, hein, mais effectivement, il semblerait que la prise d'un extrait de résine de Procyon heptaphyllum, ça c'est un arbre qu'on retrouve en Amérique latine, donc standardisé, il y a des extraits qui sont standardisés à 25% d'amyrine, et en effet, ces actifs-là pourraient inhiber cette fameuse MAGL, donc avoir aussi des effets assez rapides en 1 à 2 heures, mais plutôt sur l'inflammation, plutôt aussi sur le stress et aussi sur l'inflammation, donc ce qui est intéressant. Ça permettrait donc une augmentation du taux de 2AG, donc le deuxième endocannabinoïde dont je vous ai parlé, avec des effets anxiolytiques, antidépresseurs, antinociceptifs, anti-inflammatoires, neuroprotecteurs. On peut peut-être sortir Pollux là, on n'a pas encore d'études cliniques publiées, mais je pense que d'ici les prochaines années, ça devrait pas tarder.
Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Ah bah, je peux dire que ça fait un moment. Dès qu'il a connu le sujet de l'émission, Pollux, il a dormi avec moi cette nuit. Il m'a dit non, mais moi demain, Angélique, je l'attaque avec toi. Hein. Et donc, il était là, il sortait là. J'ai même pas pu l'attacher, il est sorti direct.
Ah oui, il fallait. Ouais. Oui.
Donc en fait, il existe aussi d'autres mémoires, d'autres alternatives au CBD, non, de mémoire?
Ouais, il existe effectivement des médiateurs qui sont appelés des endocannabinoïdes-like, ou on utilise aussi le terme de paracannabinoïdes. Et celui qui est bien connu, c'est le PEA, qui s'appelle le palmitoyl éthanolamide. Donc, ces paracannabinoïdes, ils sont chimiquement assez, moléculairement, on va dire, assez similaires, mais ils agissent sur d'autres récepteurs, d'autres récepteurs non cannabinoïdes, avec des noms tout à fait aussi imprononçables, ce qui permet aussi d'élargir un petit peu la portée de ce système, c'est pas mal. Et il y a selon une revue qui est parue en juillet 2025, c'est pour ça que vous savez que je travaille pendant l'été, ces paracannabinoïdes, ils pourraient réguler des comportements qui sont axés sur la récompense. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on commence à avoir vraiment l'intérêt de ces substances-là, notamment sur les troubles du comportement alimentaire, notamment sur les troubles du comportement de la sexualité, et notamment sur les déficiences d'interaction sociale. Ça, c'est intéressant quand il y a, par exemple, un trouble du spectre autistique, hein, des déficiences d'interaction sociale, c'est un peu ça qu'on retrouve. Donc oui, ça, je vous en parle maintenant du système endocannabinoïde, parce que c'est pas récent, mais il y a vraiment de très belles études qui sortent sur les autres axes d'action, et ça me semble intéressant sur les troubles du comportement alimentaire, par exemple, quoi.
Alors, on rappelle, parce que toutes ces études dont vous nous faites part, que vous nous partagez, que ce sont des résultats observés dans des études spécifiques, mais sur un nombre quand même limité de participants. Donc, il faut quand même suivre cela et voir comment ça va évoluer. Donc, vous suivez ça de très près, et donc ça reste des pistes intéressantes, mais c'est pas une allégation validée par les autorités, hein, Angélique.
Non, là je vous relate vraiment une revue d'études, donc une revue de plusieurs études cliniques qui ont été faites, donc notamment, et publiées, donc une en juillet 2025, donc c'est pour ça que je vous en parle. L'étude clinique dont je vous ai parlé tout à l'heure en février 2025, là aussi c'était effectivement, on en est au balbutiement, mais on est sur Nutri Radio, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Pas,
mais je suis obligé aussi de compter, parce que vous savez, il y a des gens qui peuvent écouter ne serait-ce que 30 secondes, et s'ils prennent ce passage-là hors contexte, c'est vrai qu'il faut toujours rappeler ça, donc que ces données ne constituent pas une allégation de santé au sens du règlement européen. Le propos, ça se base sur des travaux scientifiques qui sont existants, mais donc on met toutes les Il faudrait que je crée, voilà, Pollux, il faudrait que tu fasses un petit frère ou une petite sœur qui nous permette d'aller encore plus loin quand on parle de ces études scientifiques très intéressantes.
Oui, elles sont toutes ces études scientifiques, elles sont publiées, vous les retrouvez sur PubMed, ça c'est et extrêmement voilà. Important de le rappeler, elles ne sont pas sorties du chapeau, je me base exclusivement sur ces études-là.
Chapeau de Pollux, donc les informations proviennent d'études publiées, elles doivent être interprétées avec prudence et... elles ne peuvent pas être généralisées à l'ensemble de la population. Je pense que là, en termes de réglementation, on est bien.
On est bien. On demandera à notre avocat préféré.
On va se retrouver. Non, mais il faut le dire tout le temps, maintenant. Nous sommes une radio sérieuse, mesdames, messieurs. Pas n'importe quoi ici. Donc on essaie, même si parfois on rigole. Et notamment, moi je suis là aussi pour le côté un peu mémotechnique. Vous savez, quand Angélique vous parle d'anandamide, moi je vous parle d'amandalire, vous avez compris. Mais du coup, vous retenez anandamide. Hein, on s'est compris. La semaine prochaine, vous nous ferez une émission entièrement consacrée au PEA, une alternative au CBD, ou en tout cas avec des propriétés qui sont relativement semblables. Vous nous direz lesquelles, et ce sera sur Nutri Radio. Cette émission est disponible en podcast tout de suite sur nutriradio.fr, sur toutes les plateformes. Merci Angélique.
À la semaine prochaine Fabrice.
Allez, c'est le retour de la musique tout de suite.
La chronique nutraceutique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio.